Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sur 89.4 FM et aussi en ligne sur le site de Radio Libertaire. Bienvenue dans l'émission de l'association des cinéastes documentaristes ad hoc. On a déjà traité le sujet. Alors aujourd'hui dans le studio, pour parler de cinéma documentaire, nous sommes avec Doriane Conti. Bonjour Doriane.
Bonjour.
Anne Galland.
Bonjour.
Bonjour Anne. Et moi-même, Samia Jedi. À la technique, Niki Velissaropoulou et Mélanie Trachler qui nous accompagnent. Aujourd'hui, notre émission s'intitule « Cinéaste, danse, un pas de deux, trois petits points ». Et nous allons donner la parole à deux cinéastes présents avec nous dans le studio. Jean-Pierre Thorne, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et François Prenant.
Bonjour.
Bonjour François. Alors, on les a invités pour une discussion autour de leur film « Faire kiffer les anges » et « I'm too sexy for my body » pour aborder le thème de la danse, des manières de la filmer, de ce qu'elle apporte au récit, est-elle un sujet, une parabole, qu'est-ce qu'elle symbolise dans la narration, de la relation du cinéaste avec les personnages dansants, pour parler des techniques, de la collaboration avec les chorégraphes. En tout cas, voilà, ils pourront exprimer tout ce qu'ils ont envie d'exprimer sur la réalisation de leur film. Alors, dans un premier temps, François Prenant, on peut un peu te présenter rapidement, présenter ton parcours dans le cinéma. Tu es monteuse, scénariste et réalisatrice. Tu as étudié le cinéma à l'IDEC. Ton premier court-métrage sort en 75 sous le titre Paradis perdu.
Il n'est jamais sorti.
Ah, il n'est jamais sorti.
Non, c'était un film d'école.
D'accord. En tout cas, tu l'as quand même réalisé.
Oui.
Tu l'as fabriqué.
Oui, oui. À l'école, c'est la seule chose que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai fait. J'ai rien appris, mais j'ai fait deux films, un qui a disparu et celui-là.
D'accord. Tu l'as gardé quand même en archive ou pas?
L'autre?
Ouais.
Ah non, il a disparu complètement. Il a été donné aux élèves de première année pour des exercices de montage. Et c'était de la pellicule inversible, donc il n'y avait pas de négatif, donc il n'y a plus de film.
Ok. Tu as également travaillé comme scénariste, comédienne et monteuse, entre autres pour Jacques Kébadian, Romain Goupil ou encore Raymond Depardon.
Scénariste, c'était pour moi.
Ouais.
Pour les autres, non.
D'accord.
Montage principalement.
Ben, j'ai fait essentiellement du montage pour ces gens-là et avec ces gens-là et ben, petit à petit j'ai pu travailler qu'avec Jacques Kébadian parce que les autres les autres voulaient plus de moi et j'ai rompu définitivement avec Goupil.
Et la réalisation alors, t'es venu à quel moment à la réalisation?
Ben, à l'école, mon premier film, c'était le film de première année. C'était en 73. Le deuxième date de 75. Et à vrai dire, je savais absolument pas faire. Au montage non plus, d'ailleurs. Je savais pas du tout, je pataugeais complètement. J'allais à tâtons. Et puis après, j'ai fait pas mal de montage. Et surtout, j'ai été stagiaire script sur Le Diable, probablement, de Bresson. Et j'ai appris beaucoup de choses en faisant le boulot et en le regardant travailler. Même si on peut pas dire que Bresson ait une influence sur mon travail. Je suis pas assez prétentieuse pour ça. Mais j'ai quand même beaucoup appris. En ce qui regarde le montage, parce que la script, elle prépare le montage. Et voilà, donc j'étais stagiaire, puis après, pendant trois semaines, pas avec Bresson.
Non.
Non, j'ai fait l'actrice
aussi.
Avec
Depardon.
Et puis avec Jacques, et puis avec Romain, mais je suis pas actrice. Je suis pas actrice, je peux faire personnage. À la limite, je suis pas actrice, quoi. On me demanderait de jouer une avocate ou une ouvrière, je saurais pas le faire.
Alors nous, on a choisi de s'intéresser à ton film « I'm too sexy for my body ». On racontera pourquoi il porte ce titre, ce film. Alors, ton film, ça se passe à Alger, lors de la seconde édition du Festival panafricain. Tu filmes les troupes de danse en répétition, en représentation, dans des moments de détente, dans des moments de joie, des moments très festifs. Et ce film, il vient 40 ans après le premier mémorable festival panafricain d'Alger à l'été 69. Mais on en reparlera parce que, voilà, tu nous raconteras les liens avec ce film-là ou l'absence de liens, ou, etc. Donc, c'est l'année de réalisation de ce film, c'est 2009, c'est ça, hein ?
Oui.
Tu l'as réalisé ?
Oui, c'est 2009. J'ai tourné en 2009 et je l'ai terminé au montage. Ouais. Bon, j'ai dû quitter Alger, etc., etc. Donc, tout ça a été compliqué. Je crois qu'il a été terminé en 2012.
D'accord.
Complètement terminé. Oui, c'est ça. Parce que j'ai tourné en juillet. C'était la deuxième quinzaine de juillet, je crois. 2009. Et après, bon, comme j'ai tourné. En fait, j'ai tourné la matière de trois films entre 2009 et 2010. J'ai fait trois films avec ces images. Et à Alger. Et donc, en 2010, j'ai pas monté. Et en 2011, j'ai dû quitter Alger. Et il m'est arrivé un certain nombre de... J'appellerais ça des tuiles, mais c'est pire que ça. Et je l'ai monté en 2012.
Ouais. Donc, tu as mis autant de temps parce que tu disais avec la matière donc de tout ce que tu as filmé à Alger, tu as fait trois films, c'est bien ça ?
Ouais, mais enfin.
C'est quoi les deux autres ?
C'est Bienvenue à Madagascar et De la Conquête. Mais la matière pour I Am Too Sexy, c'était vraiment une matière spécifique. C'était les danseurs, quoi. Mmh. Autrement, j'ai filmé la ville d'Alger et les habitants et. Enfin, j'ai filmé Alger, quoi. Pour les autres films. Mais je me suis pas arrêté de tourner. Après le festival, j'ai continué. Je me suis lancé dans ce que je savais pas ce que ça allait devenir. Je sais pas. Je me suis lancé. J'ai eu envie de... Ça faisait longtemps que j'avais envie de filmer Alger. Et comme j'avais eu une autorisation de tournage, j'en ai profité. Je l'ai fait renouveler jusqu'à ce qu'ils me disent « Ah, mais il y a plus d'un an que le festival est terminé » et qu'ils me retirent mon autorisation de tournage.
Donc le déclic, l'envie de faire ce film, c'était parce que tu étais présente là-bas. Et puis ce festival, tu étais spectatrice de ce festival au départ ?
C'est-à-dire que j'habitais là-bas depuis fin 99. Et quand j'ai su, enfin évidemment, je l'ai su, puis j'ai eu tout de suite envie de faire quelque chose, quoi. Et j'avais vu le film de Klein, mais c'était pas une référence pour moi parce que je suis pas, malheureusement, je suis pas Klein. Et que le festival, je savais qu'il y aurait pas beaucoup de rapport entre le festival 2009 et le festival de 69. Parce que la situation essentiellement politique avait plus rien à voir avec la situation de 69. Donc j'avais quand même espéré que ça modifierait quelque chose dans les rues. Et que je pourrais filmer les rues. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mis à filmer les rues après. Mais ça n'a rien modifié parce que les artistes africains étaient complètement encadrés. Ils ne pouvaient pas faire un pas de côté, quoi. Ils n'avaient aucune liberté. Ils ne pouvaient pas sortir seuls. Ils sortaient en groupe, etc., etc. Donc ça n'a pas modifié la ville. Parce qu'on sait que les Algériens sont racistes anti-noirs. Et je me disais
pas
que...
Tous.
Pas tous, mais beaucoup. Enfin, globalement, on peut dire qu'il y a évidemment pas tous. Il y a une forme de racisme anti-noir, y compris à l'égard de leur propre population noire, qui est assez répandue. Et puis je me disais que la liberté de ces gens-là, la façon dont ils sont habillés, etc., provoquerait des réactions dans la population. Mais bon, effectivement, tout le monde les regardait, mais c'est parce qu'ils étaient en bande. Ils étaient en bande de 40, parce que c'est des bus entiers qui débarquaient, qui en amenaient de leur lieu de résidence en ville, pour faire du shopping, essentiellement. C'est ça qu'ils faisaient essentiellement quand ils sortaient. Donc, j'ai tout de suite vu que c'était pas ce que j'espérais. Et je me suis... concentré sur le travail des artistes eux-mêmes. Par ailleurs, il n'y avait pas que des danseurs, il y avait aussi des artisans, il y avait des écrivains, il y avait des cinéastes, il y avait Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Mais c'était moins politisé que 69. Il n'y avait pas des intellectuels, il n'y avait pas des réunions politiques, des choses comme ça, non. Comme en 69, pas du tout.
Non.
Oui, c'est vrai pas... que le contexte historique et politique de l'Algérie en 2009, il est particulier.
Ben, c'était...
Parce que la décennie noire s'est finie à peu près en février 2002, donc c'est pas très loin, c'était il y a 7 ans à peine. Et ils sortent quand même d'une période hyper traumatisante, marquée par le terrorisme, et puis la présence de l'armée dans ce pays, enfin, elle est quand même très très forte. Donc, tu disais que tous ces artistes étaient très surveillés, c'est ça? On le voit un petit peu dans ton film, on voit un peu la présence de la police.
Oui, c'est la police, celle qu'on voit dans le film, c'était de la police gentille. mais par contre, il y avait dans l'organisation même du festival, c'était hors police, il y avait des tas de surveillants partout qui. J'étais sur un premier site avant d'aller sur celui qu'on voit dans le film, qui est au bord de la mer et qui était beaucoup plus agréable. Un premier site qui était une cité universitaire. Dans la banlieue d'Alger, et là ils étaient enfermés derrière des grilles et ils n'avaient pas le droit de sortir, quoi. Sauf en bande, justement, ou sauf pour les représentations. Et j'avais rencontré un poète camerounais, je crois, qui avait même pas eu la possibilité d'aller aux tables rondes auxquelles il était invité, quoi. Et j'avais fait passer ses revendications à l'organisation du festival et je me suis fait expulser du site parce que je menaçais la sécurité. Et donc j'en ai trouvé un mieux après, qui était beaucoup plus beau, tant mieux que je me sois fait expulser. Mais c'était très très surveillé, très très encadré. Il y avait des petits jeunes qui s'appelaient des... J'ai oublié comment ils les appelaient. Des petits jeunes volontaires qui... En fait, qui étaient des petits pions, quoi. Des pions qui, comme à l'école, qui étaient chargés de surveiller les artistes. Qui étaient de tous âges, il y en avait des vieux, le poète, il devait avoir mon âge, et puis il y avait carrément des petits gamins, dans certaines troupes, il y avait les troupes guinéennes, par exemple, il y avait des petits gamins acrobates, bon, il y avait tous les âges, et... mais c'était pas politisé du tout, et l'Algérie s'est donné du mal pour le dépolitiser au maximum.
Après la présence de ta caméra, je pense que le fait que c'était un moment festif, ta caméra, elle passe un peu plus crème et tout, mais d'ailleurs, on le sent, quelquefois les gens se sentent filmés et parlent de la caméra. À un moment donné, il y a une petite fille qui danse. Et
c'est
puis elle se retourne.
La petite fille qui danse, j'adore.
On a l'impression que tu lui fais signe, et puis là, elle danse pour toi, elle se retourne, elle danse pour toi.
Et il y a quelqu'un qui vient lui dire
d'arrêter. Ouais,
exactement, tout à fait.
Il y a un mec qui passe et qui lui dit, bon, t'es pas
correct. Il fait un petit signe sur l'épaule.
Exactement. Mais bon, elle dansait pas pour moi, elle dansait pour elle et ses copines. Et elle avait vu que je la filmais, mais elle en était contente. Par ailleurs, j'ai eu aucune difficulté de tournage pendant cette période de tournage, pendant le festival, que ce soit avec les artistes qui étaient très contents d'être filmés et qui sont des artistes donc qui jouent, ou que ce soit avec les spectateurs qui étaient tellement heureux parce que bon, à Alger, il n'y a rien à foutre, quoi, en particulier le soir. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de cinéma, il y a très très peu de théâtre. Et puis bon, même si on avait, il faut le payer. Et les gens, bon, ils se voient entre eux, ils sortent dehors, mais en été, quoi. Mais il y a rigoureusement rien à faire, quoi. Donc ils étaient vraiment heureux, les gens, d'avoir des spectacles, de pouvoir y aller. Ils sortaient en famille, les femmes sortaient, les gosses sortaient. Bon, les gosses, ils sont très souvent dehors.
J'étais très surpris dans ton film sur la séquence à la plage, parce qu'il y a une sensualité folle de tous ces danseurs et danseuses. Enfin, la fille qui se fait recouvrir de sable à un moment donné. Et j'ai été étonné que ce soit possible dans l'Algérie d'aujourd'hui, avec tout le code moral et tout après les années noires, que ça existe.
Le code moral et religieux. Mais en plus, 2009, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, 2009, c'était une période, ça avait commencé vers 2006, 2007, de rétrécissement de la société, après que, pendant quelques années, vers la fin du terrorisme, et même quand le terrorisme n'était pas complètement terminé, mais il y a eu une expansion. Les gens étaient tellement heureux que, qu'on approche de la fin, que ce soit la fin, qu'il y avait une expansion de moments de bonheur chez les gens. Et 2006-2007, ça a commencé à se rétrécir, et moralement et religieusement. Et donc, ce festival est arrivé dans un moment de détrication. C'est bien pire maintenant, j'en viens là d'Alger, c'est encore pire.
Parce que j'étais aussi au mois de janvier.
Moi, je suis allée en décembre.
La fin de
Boutef a rien arrangé. C'est pire qu'avant, quoi. Et j'ai vraiment senti, et je suis rentrée déprimée.
Tu m'as pas répondu. Comment c'est possible que cette séquence aussi libre, aussi sensuelle sur la plage ait lieu en plein moment de rétrécissement de la société algérienne?
Ben, d'une part, ils étaient enfermés, non, parce que les Algériens passaient pour les voir comme s'ils avaient été aux eaux. Ils passaient le long de la rive. Mais ils étaient enfermés derrière des canisses. Il y avait un grand espace. Ils étaient descendus en bus, à plusieurs bus. Et d'autre part, ils étaient en force. Les petits guides dont je parlais tout à l'heure, ils n'avaient aucun pouvoir sauf celui de draguer les filles, quoi. D'enterrer une fille pour avoir le plaisir de la recouvrir de sable et de la caresser, quoi.
Et les deux mecs qui chantent, là, à la guitare.
Ça, c'était. Je suis tombé sur eux.
Toi, en fait. C'est chouette, je trouve.
Ils chantent à un moment pour la caméra, ils le disent. Jolie caméra. Jolie Sarah.
Pour Sarah, ouais.
Jolie Sarah.
Jolie Zeralda, parce que c'était à Zeralda. C'était pour moi, ils ont continué d'improviser, quoi.
Justement, on peut écouter. J'ai choisi volontairement un extrait assez long pour qu'on rentre dans l'ambiance de ton film. Alors cet extrait, il est au début, il est introduit par un carton où est inscrit un poème. Tu vas nous dire d'où est extrait ce poème. Un poème qui dit « Et ce ne sont pas seulement les bouches qui chantent, mais les mains, mais les pieds, mais les fesses, mais les sexes. » Et donc ensuite... nous pourrons parler de cette séquence. On va prendre le temps de l'écouter. Elle dure à peu près 5 minutes, je crois. Et puis, comme ça, même les auditeurs et auditrices pourront se plonger dans l'ambiance du film.
Vraiment sérieux, et c'est le fruit de ce qu'ils ont semé, eux. PANAF, Festival d'Alger. Ce qu'on a trouvé de concret, c'est ça. Parce qu'on mange, on dort, et si on ne se connaît pas, on ne travaille pas ensemble. Je connais Burkina Faso, je connais Rwanda, je connais Guinée, je connais Sénégal. C'est ça qui est bien. Donc nous félicitons ceux qui ont fait sortir l'idée. Ce que vous êtes en train de faire, ne croyez pas que c'est ici seulement que ça va s'arrêter. Ça va aller loin. D'accord ? Donc rendez-vous le 21. Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Il est là.
C'est bon. Oui. Voilà, voilà.
Cérémonie à Kepéa. Hein? Nézé, cérémonie.
La colère. Non. Mais c'est étonnant que vous me posiez cette question. Mais on fait pas du théâtre ici, on danse.
Donc c'est une danse.
Oui, c'est un spectacle de danse. Vous dites que la compagnie Zigidi du Togo présente la colère des dieux.
Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir nos frères du Togo. Bon, la compagnie, elle s'appelle Zigidi. Ils vont nous présenter une danse qui s'appelle la colère des dieux.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, on est dans le studio avec François Prenant, Anne Galland, Jean-Pierre Thorne, Doriane et moi-même. On vient d'écouter un extrait du film de François Prenant, I'm too sexy for my body. Et en fait, on voulait un peu le décrire cet extrait parce que ça montre la danse. Alors, pour avoir un peu des images dans la tête, il y a le ralenti. Visage souriant, grand geste des bras, rythme des percussions, un homme et une femme qui dansent.
C'est pas un ralenti, c'est son propre rythme à elle.
D'accord. C'est pas un ralenti. Comme tu disais tout à l'heure, elle ressemble à un oiseau.
Elle
fait l'oiseau.
Qu'elle va s'envoler, ouais. Mais c'est pas un ralenti, c'est son rythme. D'accord. À elle, c'est à 25 images secondes.
Ok. Et donc, ensuite, un homme très enthousiaste, entouré de sa troupe, semble les coacher. Il leur dit que c'est important qu'ils soient là au festival. Il cite tous les pays présents, Burkina Faso, Rwanda, Sénégal. Il a de l'ambition pour eux. Il leur dit ça va aller loin, etc. On sent l'enthousiasme, le bonheur d'être là dans ce festival. Et il a envie que la troupe donne le meilleur, quoi. Ensuite, il y a un gros plan d'un homme, un autre homme ou une autre personne, on ne sait pas, on voit que la main lui peint le visage, des petits pointillés blancs sur les joues, sur le front, sur le nez. Il fait des traits sur le menton. Cet homme est très souriant, il remercie la personne qui le peint, je crois, sur le visage. Ensuite, je me souviens de danseurs en tenue traditionnelle. Je ne saurais pas dire de quel pays, mais il y a Togo. Souvent... C'est Togo ?
Oui, traditionnel, mais en nylon.
Alors, il y a souvent les couleurs de l'Afrique qui reviennent, le vert, le jaune, le rouge. Ça, c'est des couleurs quand même très présentes sur le continent africain.
Il y a du rose aussi, pas mal de rose.
De rose aussi.
Ça va bien avec le vert.
Mais c'est vrai que le vert, le jaune, le rouge, il y a beaucoup de drapeaux africains qui ont ces couleurs. Ils ont une symbolique, évidemment, hein, ces couleurs. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Le jaune, peut-être la couleur du soleil ou du désert. Enfin... Quelquefois, dans certains drapeaux, en tout cas, ça peut avoir une signification.
Et le rouge, celui de la Révolution, mais je ne sais pas si c'est vraiment cette symbolique-là.
Ça peut être le rouge de la Révolution ou le rouge des martyrs aussi, du sang qui a coulé pour... je ne sais pas.
Moi non plus, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a, il y a vraiment des moments dans ton film où il y a des couleurs incroyables. Et toutes ces couleurs-là sont bien présentes dans les costumes, et pas seulement. Quelquefois, il y a des ombres et des couleurs un peu délavées, comme ça. Voilà, on avait envie d'écrire l'extrait parce que c'est important pour être un peu dans... Ouais. Mais on est à la radio, donc du coup, voilà, on avait envie d'avoir un peu les images dans la tête avec le son.
Parce qu'on peut quand même aussi souligner que c'est une des rares séquences où on entend des paroles.
C'est la seule, oui.
Voilà. Et
On entend des paroles en arabe, mais de temps en temps, mais que j'essayais de faire traduire. On entend aussi à un moment les Congolais qui parlent. J'ai fait traduire, mais c'était pas intéressant. Ils étaient allés faire pipi pendant qu'on répétait. Bon, je ne sais pas traduire. Et on entend quelques paroles en arabe que je n'ai pas traduites parce que soit c'était un peu inaudible, donc intraduisible. Mon traducteur ne comprenait pas. Soit ça n'avait aucun intérêt. C'était des apostrophes.
Mais c'est pour dire qu'on a fait ce choix parce qu'on est à la radio et pour que les auditeurs puissent avoir une petite idée qu'il y a des personnes qui se parlent, même si c'est dans un brouhaha, même si dans des langues qu'on ne comprend pas. Mais en fait, ton film ne repose pas du tout là-dessus. Et on verra avec Jean-Pierre qu'il y a vraiment une grande différence, justement, entre vos films.
Non, moi, ce que je trouve important dans ce film, c'est justement... c'est la parole d'avant les mots. Je ne sais pas comment dire. Ça veut dire que les corps disent ce que les mots ne disent pas. Et tout le long du film, et c'est un parti pris vraiment très radical, il n'y a que de la musique et de la danse. Il y a aucun...
Et des chants.
Des chants, oui. Mm-hmm. Et moi, ce que j'adore, enfin, dans ce film, c'est la manière dont tu filmes, Françou. C'est la fixité des cadres aide à voir la danse. Et tu tiens les plans vachement longtemps. Et du coup, les cadres explosent avec la rythmique, quoi. Et enfin, à plein de moments, moi, je suis complètement sidéré. Je pense, par exemple, au moment aussi où il y a les danseurs d'Afrique du Sud en bottes. C'est les mineurs, les gumboots. C'est extraordinaire. Et toute cette rangée de mecs qui chantent « I am too sexy ».«
For my body ».«
For my body ».
Ce que j'ai toujours pas très bien compris. J'ai pas toujours très bien compris ce que ça voulait vraiment dire.
C'est une reprise en fait d'une chanson.
Ah oui, mais c'est une chanson connue, mais
qui date de 91. Mais... J'ai noté quelque part.
Je comprends pas bien le sens de I am too sexy for my body.
Enfin, eux sont sexy sur scène, c'est incroyable.
Ça, c'est ils sont très sexy, mais je crois que c'est. J'ai l'impression, enfin, comme cette chanson, bon, je l'ai filmée dans son intégralité, que c'était une chanson sur le travail et qui mimait.
Ah bon.
Il mimait par moment le travail du mineur, par moment il mimait justement une démarche sexy, allumeuse un peu, mais plusieurs fois il mimait des gestes de travail. Celui qui s'avance seul en dehors de la rangée, qui est pas toujours le même, il s'est tournant. J'avais l'impression que c'était une chanson sur le travail, mais comme il n'y a pas d'autres paroles que le refrain qui revient tout le temps...
Mais moi, ce que je trouve étonnant dans cette séquence, c'est comment tu tiens ton cadre, t'attends que ça se passe. Et t'es pas comme souvent la danse, les gens vont chercher des détails, y a des focales différentes. Là, tu tiens ton cadre et t'as confiance de ce que va t'apporter la danse. Et moi, ça, je trouve ça... enfin, en tout cas... Je suis fasciné par ta manière de filmer la danse à plein de moments. Je pense à un moment aussi qui m'a complètement ébloui. C'est, je t'en parlais tout à l'heure, c'est un mec qu'il doit répéter, je pense, dans une pièce un peu sombre. Et derrière, il y a la mer et au loin, il y a Alger. C'est quand tu es dans ce lieu où il répète. Et il est là sur un solo, mais d'une beauté extraordinaire. Et c'est pareil, tu tiens les corps sont en entier. Je dis ça parce que souvent, quand la danse est filmée, les gens charcutent dedans, vont chercher des plans différents. Et le premier, parce que moi, ça, on s'est posé la même question avec Farid Berki quand on a filmé la danse. Notamment, enfin, dans un autre film que Faire kiffer les anges, on n'est pas des marques de vélo. Farid, on avait regardé les comédies musicales américaines et on s'est aperçu, Fred Astaire, les cadres sont fixes. Alors, de temps en temps, il y a un changement de cadre, mais il y a une continuité des plans qui est tout l'inverse de Dancer in the Dark, où il se vante. Lars von Trier, d'avoir 100 caméras, ce que je trouve, ça n'apporte rien à la danse. Là, il faut avoir le respect d'attendre que la danse nous offre son rythme et sa beauté, là, sa sensualité qui est incroyable, et ne pas en rajouter. Parce que si tu rajoutes, si tu découpes, ça fait... Enfin, ça devient redondant, quoi. Et du coup, si t'en fais trop, ben, ça annule la danse. Et moi, ça, je te respecte beaucoup pour ça, parce que je sais pas où tu as appris, si ça vient de manière spontanée, mais il y a tout depuis le début. Il y a les deux corps que tu filmes un peu en profil, et ils sont dans les mêmes rythmiques, et ils se répondent, et ta caméra est stable. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. Enfin, c'est le respect de la danse.
Ouais. On va stable, revenir sur pas cette... vraiment, ça bouge
oui,
tout le temps,
oui,
mais ça se voit pas parce que comme les gens dansent.
Oui.
Mais par ailleurs, il n'y a rien de plus simple que ça. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé un cadre et que tu es content de ton cadre, tu appuies sur le bouton.
Oui, mais t'attends, là.
Et t'attends jusqu'à ce que... Ou bien tu tiennes plus bien la caméra, ou bien tout d'un coup, les gens sortent du champ ou que t'arrives pas à panoter avec. Et puis à ce moment-là, tu changes d'axe et... Mais bon, avec par exemple les Gumboots, il y a plusieurs axes.
Oui.
Il y a cinq, six plans, sept plans, je sais plus. Et il y a plusieurs axes. Je change je passe devant, je passe derrière, je descends sur les boots. Et bon, pour le gars qui danse devant la fenêtre, il n'y a qu'un plan.
Oui.
Mais bon, il se trouve que j'ai été là au moment où il s'exerçait tout seul dans une salle de une salle. On peut pas dire des salles de répétition parce que c'était une thalassothérapie cet endroit, donc une salle. Et comme le cadre était beau avec la porte qui se découpait sur la
mer.
Ouais, c'est pas le jeu au fond, c'est la banlieue. Mais c'est la mer.
Mais tu vois, dans un autre plan, au début, quand les deux... Il y a une fille que tu filmes et elle est tellement embarquée dans sa danse qu'elle sort du cadre et toi, tu bouges pas et elle revient dans le cadre. Et j'adore ça, moi. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Bah, je sais pas. Il y a des moments où t'as pas envie de suivre.
Ouais, mais c'est vachement
surtout
bien.
Surtout que c'est des danses quand même assez échevelées. Et donc, t'as quand même... un certain nombre de chances pour qu'elle revienne dans le cadre après on est sorti. Et puis bon, il y a des tas de plans qui étaient foirés que j'ai pas monté.
Bien sûr.
On va revenir sur cette question de comment filmer la danse un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord j'aimerais te présenter quand même Jean-Pierre, présenter ton parcours et puis le film qui nous intéresse, donc Faire kiffer les anges. Donc toi, tu es né à Paris et puis tu commences ta carrière en 1965 par des mises en scène de théâtre à Aix-en-Provence. Tu réalises ensuite « Oser lutter, oser vaincre » en 1968, qui est ton premier long-métrage documentaire, dans lequel tu filmes 5 semaines de grève aux côtés des ouvriers de l'usine Renault-Flin.
Flin,
excuse-moi. L'année suivante, tu abandonnes ta caméra pour aller travailler comme ouvrier OS à l'usine métallurgique Alstom de Saint-Ouen. Et puis, quasiment 10 ans plus tard, en 1978, tu reviens au cinéma et tu co-animes la distribution d'un programme de 10 films intitulé « Mai 68 » par lui-même. En 1980, tu réalises « Le dos au mur », qui est ton second long-métrage documentaire dans lequel tu filmes de l'intérieur les grèves des travailleurs et travailleuses de l'Alstom Saint-Ouen. Donc c'est l'usine où tu as travaillé. Et tu filmes aussi les travailleurs et travailleuses de Belfort qui affrontent l'Alstom Atlantique, qui est l'un des principaux groupes industriels français.
Non, je n'ai pas filmé Belfort, c'est... tout se passe à Saint-Ouen. Hein, et à un moment donné, les copains de Belfort arrivent, et donc il y avait un espoir fou à Gare de l'Est que ça va renforcer la lutte. Et en fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire une lutte de cette importance contre un trust de la CGE, où il y a 100 000 ouvriers, il n'y a aucune connexion. Et les ouvriers, les copains qui sont du comité de grève de Saint-Ouen, quand Ségui vient saluer, il crie « Avec nous, Belfort, avec nous, Belfort, avec nous !» Et Belfort n'est jamais allé dans l'usine de Saint-Ouen. C'est fou.
D'accord,
hein,
ouais. Ouais. Et tu commences ensuite à t'intéresser au mouvement hip-hop en 1995, dans ton film « Génération hip-hop » ou le move des Up.
Des Up.
Et puis dans les deux films suivants aussi, donc « Faire kiffer les anges », réalisé en 96, et puis « On n'est pas des marques de vélo » qui est sorti en 2002. Tu réalises encore de nombreux films jusqu'à L'âcre parfum des immortels, qui est ton dernier documentaire réalisé en 2019, où tu remontes le fil de ta vie et tu retrouves les figures de lutte qui ont peuplé tes précédents films. Donc les ouvriers, les artistes des mouvements hip-hop et puis plus récemment les gilets jaunes. Donc dans l'émission aujourd'hui, on parle de danse et de ton film « Faire kiffer les anges ». Réalisé donc en 97. Dans ce film, tu donnes la parole à des danseurs surtout, et puis aussi à quelques musiciens, qui dans les années 80 ont été des précurseurs du mouvement hip-hop en France, qui est un mouvement qui venait d'abord des États-Unis. Tu les filmes dans leurs anciennes cités, devant leurs anciens collèges, chez leurs parents, et aussi dans des lieux qui ont été les lieux de leur premier pas de danse et de leur découverte du hip-hop. Et puis tu nous montres leurs évolutions aussi dans le monde de la danse, parce que tu montres des extraits de spectacles dans lesquels ils se produisent en tant que danseurs et danseuses professionnelles. Avec Faire kiffer les anges, donc tu poses ton regard sur cette jeunesse qui en fait utilise la danse pour transcender leur rage et pour exprimer avec force leur présence au monde. Donc pour entrer dans l'univers de ton film, je vous propose d'écouter un premier extrait. Et dans ce passage, tu accompagnes Gabin, qui est un danseur et chorégraphe donc hip-hop, qui a grandi dans la cité Thorez à Duny, et qui revient pour te montrer ses premiers lieux de danse. Donc je vous laisse écouter l'extrait.
Bouddha, Xavier, Pascal, Gabin, et il y avait aussi chaîne NTM, c'était l'un des premiers à être entré. On disait souvent, on est les cinq droits de la main et tout. On était des bons compétiteurs parce qu'on avait une rage et que... en fin de compte, c'est ce qui différencie les mouvements de maintenant. C'est la rage qu'on avait pour avoir les choses et la facilité où les gens ils peuvent avoir la technique maintenant. Ce sont deux modes différents. Mais il ne faut pas oublier que la rage, c'est quelque chose qui est toujours présent. Tu vois ? C'est-à-dire quand on dit une rage, c'est une volonté d'être. Tu vois, d'être et puis d'être présent et tout. Tant que, tu vois, il y a ce côté agressif de vouloir être. Et si tu veux, on s'entraînait ici, mais c'était plus du béton. Et bon, de temps en temps, on avançait et tout, et puis on faisait des trucs techniques au niveau d'ici, même à l'intérieur de cet immeuble-là.
Mais vous devez vous faire mal, c'est incroyable, le sol, il est...
Mal, non, c'était plutôt un plaisir. Hein. C'est le plaisir, tu sais, le mouvement, c'était plus fort que nous. Des fois, il y avait des amis qui venaient et puis ça mettait une petite tension. Les tensions étaient bonnes, étaient positives, si tu veux. Alors, il fallait, vas-y, Bouddha, qu'est-ce que tu fais et tout, vas-y, Gabin, qu'est-ce que tu fais. Donc, si tu veux, on se déchirait la peau, mais après, on s'en foutait, quoi. C'était un plaisir, sincèrement. Hein. Et je vais vous montrer à peu près où on a commencé. Alors là, il y avait du côté de chez ma mère, le 12. Et aussi, c'est un endroit qu'on venait parce qu'il y avait moins de monde qui pouvait regarder. Ça, c'était important. Donc, on arrivait. On était toujours avec un pied, tu vois. Toujours en train de... Tu vois, c'était le début, quoi, un petit peu du hip-hop. Mais je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris ici. Et il fallait contrôler de façon à ne pas se briser les pieds sur sur les boîtes aux lettres. Et ça, c'était terrible.
Dis juste une question. Avant de danser, c'était quoi ton travail?
J'étais électromécanicien. Alors, c'était pas un travail d'imbécile. Et ce qu'il y a, c'est... En fin de compte, le travail, ce qui nous tue... C'est qu'on va à l'école, on se dit, on va être électromécanicien, donc on va faire des recherches, on se fait des idées, oui, je vais trouver le proton, le neutron, machin comme ça. Et puis tout compte fait, ben, dans n'importe quel travail, on te fait croire un rêve avec les mots, Et quand t'arrives, tu te retrouves comme des gens secondaires. Genre, alors, pour être électromécanicien, j'avais juste besoin de dévisser une lampe, machin comme ça, alors que j'ai des gens qui n'avaient pas besoin de diplôme pouvaient le faire. Tu comprends? Et c'est là un petit peu que mon désaccord avec le travail, tu vois, pas un désaccord, j'avais de l'argent. J'allais, je trouvais de l'argent facilement, mais j'avais pas l'impression d'évoluer. C'est comme si j'étais stable, j'étais toujours au même endroit et que c'est la même rengaine, la même chose que je ressors. Et j'avais pas l'impression, tu vois, d'avoir vraiment acquis quelque chose spirituel.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous écoutez l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet, et nous venons d'entendre un extrait du film « Fer qui fait les anges » de Jean-Pierre Thorne. Donc Jean-Pierre, dans ce passage, on entend Gabin, donc, qui est un danseur précurseur du mouvement hip-hop en France.
Oui, qui est très très connu, qui est un peu le groupe fondateur, enfin c'est Actuelle Force, voilà.
Oui, qui a fondé c'est la compagnie de danse qui s'appelle Actuelle Force.
Actuelle Force.
Et donc, il raconte comment il a commencé à danser dans les couloirs de l'immeuble.
De son immeuble, oui.
Sur le béton et entouré de ses amis donc, dans la cité de Torres à Duny. Et puis, il raconte qu'il est devenu électromécanicien et que ça ne lui allait pas du tout. Et je voulais savoir d'abord, comment est-ce que tu as rencontré en fait, ces danseurs?
Comment je les ai rencontrés? Écoute, j'ai fait un film précédent à Lyon qui s'appelle Génération Hip-Hop, où là, j'étais allé à un festival qui s'appelait Danse Ville Danse, qui a d'abord eu lieu à Villeurbanne et ensuite dans la Maison de la Danse. Et j'avais été époustouflé, il y avait 200 danseurs, une joie, un peu comme le film de Fansou, c'est-à-dire... Une joie de danser, de dire quelque chose par le corps de tous ces jeunes. Et il y avait 2000 spectateurs et beaucoup de jeunes, des jeunes qu'on ne voit jamais dans un théâtre. Il y a un plan d'ailleurs d'Enfer qui fait les anges que j'ai mis exprès à la fin, où on voit que c'est des petites jeunes des quartiers. Chacun vient dans son quartier pour soutenir les danseurs qui passent. Et il y a une... Il y a quelque chose d'incomparable qui se passe entre la scène et voilà. Et donc, ayant fait ce film que les télévisions ne voulaient pas que je fasse, puisqu'ils disaient j'étais allé voir Arte, enfin un peu tout le monde, et ils avaient dit oh, c'est de la sous-culture américaine, qui est bien le mépris avec lequel les élites considèrent la culture qui vient des gens du peuple. Et moi, je trouvais qu'au contraire, c'était une façon de crier leur soif d'être considérés à égalité dans la société française. Enfin, il y avait quelque chose, moi, qui m'a vraiment pris. Et du coup, il y a eu des rencontres de la Villette qui, pour la première fois... Donc, j'ai été là un peu par chance, comme j'avais fait ce premier film, où tous les groupes de France sont venus danser, là aussi, avec une ambiance incroyable. Et j'ai passé à la Villette, comme ils avaient vu... Génération Hip-Hop, ils m'ont demandé de le passer, et dans la salle il y avait plein de danseurs, et sur le premier rang, il y a eu toute Actuelle Force. Actuelle, c'était... On faisait gaffe, quoi. C'était respect, hein. Et je me dis, oh là, s'ils aiment pas, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et parce que les Parisiens étaient toujours... méfiant par rapport aux Lyonnais, ils veulent pas avoir des leçons des Lyonnais, enfin. Et puis, quand le film a été terminé, Gabin m'a dit « Formidable, t'es des nôtres, viens filmer chez nous. » Et effectivement, je suis allé dans sa cité, à Duny, et ce qui était très touchant là aussi, c'est que je pensais le filmer en dessous de l'immeuble de où sa maman habite toujours. Lui, il ne revenait pas depuis un certain moment. Donc, je l'ai amené pour le film dans sa cité. Et les jeunes étaient comme un boxeur qui revient dans sa cité. Ils étaient les yeux qui brillaient. C'est le frère qui revient. Tu ne nous as pas oubliés, il y en a un qui dit. Et Gabin me dit, mais je préfère que tu nous filmes. Il m'a emmené dans, là où il y a la séquence. Et en fait, ce que j'ai découvert après, j'ai dit, mais pourquoi tu nous amènes là? Parce que moi, je pensais te filmer devant chez ta maman. Et il m'a dit, c'est là qu'on s'entraînait, parce qu'il y avait un copain qui s'appelait Bouddha, qui était le petit jeune de notre groupe, et il est en prison en ce moment. Et c'est pour, s'il voit le film en prison, il verra que son quartier l'a pas oublié. J'avais trouvé ça extraordinaire, et du coup, j'ai filmé là, et ça a donné le film suivant, parce que quelques années après, je vais à une répétition d'Actuelle Force qui, sur un projet de comédie musicale que je suis jamais arrivé à financer, et je vois un jeune danseur débarquer comme une bombe sur des passe-passe. Et je dis à Gabin, mais c'est qui ce danseur? Il dit, ben c'est Bouddha, tu sais, c'est celui qui faisait partie d'Actuelle Force et qui était en prison. Et c'est comme ça, voilà, qu'a démarré le film d'après. Parce que Bouddha m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et il m'a dit, tu peux pas me trouver un avocat. Je suis là, mais je peux pas avoir mes papiers parce que j'ai été expulsé en Tunisie. Mes parents étaient ici. Ma mère m'a payé le billet pour que je revienne. Mais on veut pas me donner les papiers. Oui, on veut pas donner les papiers parce que il aurait fallu... Enfin, dans la logique de la France, il fallait qu'il retourne en Tunisie, qu'il demande de là-bas les papiers. Et jamais il l'aurait fait revenir. Là, c'est un peu... Et du coup, c'est ce qu'on appelle la double peine. Ça a donné naissance au film suivant. Voilà.
Et donc, dans Faire kiffer les anges, tu filmes Gabin, mais tu filmes aussi d'autres personnages. Oui. Tout cela, tu les as rencontrés à la Villette aussi. Comment ça s'est passé de construire ton film autour de tous ces différents personnages?
Écoute, c'est pas comment dire. Moi, j'étais fan de tous ces danseurs. J'ai eu une aide de l'Europe parce que la télé française, naturellement, en avance, ne voulait pas m'aider. Et en fait, cette aide européenne m'a permis d'aller filmer chacun des groupes et tous. Je leur avais dit, je filme une séquence de répétition parce que bon, je pouvais mettre la caméra sur scène à côté d'eux et une interview. Pour vous, peut-être deux groupes. Et du coup, je leur ai montré à chacune des... Donc ça, ça se fait pas, soi-disant. Moi, je trouvais ça assez super de montrer les images aux gens que j'avais filmés pour leur rendre confiance et qu'en même temps, je sentais qu'est-ce qui les attirait, qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire. C'est comme ça que à un moment donné, Kader, qui m'avait dit, j'aimerais bien que tu filmes mes parents. Et en fait, c'était la difficulté d'avoir dansé parce que sa maman croyait qu'il se piquait, enfin qu'il se camait, parce qu'il rentrait tous les soirs à minuit. Et du coup, j'ai eu l'idée de filmer cette scène où il raconte cette scène avec sa maman, qui est bouleversante, parce que sa propre mère croyait qu'il se... Donc, avait une image tellement dégradée des banlieues, de la danse hip-hop, qu'elle croyait qu'il se piquait. Et il dit à la fin, c'est la bombe atomique que j'avais en moi. Et je trouve ça... Enfin, qui monte l'énergie de cette danse, quoi. Voilà. Et donc, après, c'est de fil en aiguille. À la Villette, je vois des groupes à Nantes. Ah, je suis vraiment intéressé. Je vais parler avec eux. Et je l'ai filmé. Il y avait aussi, à la fin, le solo de Farid Berki, que je trouvais formidable. Mais je l'avais mal filmé, parce que j'avais qu'une caméra ce jour-là. Or, à la Villette, j'avais pu avoir trois caméras, parce que pour la danse, ça permet d'avoir un plan large, un plan... vraiment, il y en a une, je me suis battu, parce que les gens de la Villette ne voulaient pas me laisser, mais on était vraiment à l'avant-scène. C'était très dur pour le cadreur de filmer les gros plans. Et une caméra dans l'autre sens, ce qui me permettait de reconstituer l'espace, quoi. Et donc, Farid, je l'avais mal filmé parce que j'étais pas prêt, je ne connaissais pas. Je suis allé à tout hasard, je filme avec ma petite caméra. Et je trouvais ça tellement fort il a fallu que je convainc mon producteur qu'on n'avait plus d'argent. Il me disait non. Je lui dis si, il faut qu'il y ait Farid, parce que Farid amène une réflexion politique sur ce qu'est le hip-hop par rapport à la société française. Et donc je le filme dans le hall de la gare de Lille-Europe, parce que là c'est pareil, moi naïvement je croyais qu'il aimerait que je le filme dans son quartier, parce qu'il habitait à la frontière entre la Belgique et la France, et j'appelle toujours Farid l'homme des frontières, parce qu'il faut transgresser les frontières. Et Farid m'avait emmené, et à l'époque il n'était pas prêt à ce que je filme dans ce quartier qu'on voit par contre dans le dernier film, dans L'âcre parfum des immortels, parce qu'il m'avait dit ça va donner encore une image ouvriériste. Tu vois, ils ont une vraie réflexion sur l'image qu'ils donnent à la société, comment se servir de leur danse pour casser les barrières, quoi. Et Farid m'a dit...
des préjugés, surtout.
Ah ouais, ouais. Et donc Farid m'avait dit, j'aimerais, c'est la danse du futur, j'aimerais que tu me filmes dans la halle de la gare Lille-Europe, qui était alors en construction. Il n'y avait aucun panneau publicitaire. Et j'ai trouvé ce lieu tellement abstrait que, voilà, donc je lui ai donné... Mais c'est comme ça, le film s'est construit comme ça, par des séries de rencontres. Ouais.
Et pour les choix des lieux d'interview, est-ce que c'est toi qui choisissais? Est-ce que c'est eux? Comment ça se passait?
Justement, c'était un dialogue avec eux. Je leur demandais, c'était vraiment important pour moi de filmer cette danse en rapport avec une architecture. Et donc, à chacun, je leur demandais de me dire où ils aimeraient être filmés. Après, il y avait plusieurs propositions, moi j'en avais aussi, on discutait, et c'est comme ça, voilà, chacun s'est mis en scène. Et du coup, je prends un autre exemple, c'est Zoro Enchiri qui danse sur le toit de sa tour à Vénissieux, au Minguette. Et Zoro était un des danseurs précurseurs, là aussi à Lyon, qui s'appelait Traction Avant Compagnie. Et Zoro me dit, j'aimerais que tu me filmes sur le toit de mon immeuble. Parce qu'il a habité là 15 ans, et c'était pour lui, voilà, sa danse est en réaction à tout ce qu'il a subi pendant 15 ans. Et on n'avait aucune autorisation, en plus il n'y avait aucune sécurité. Mon ingé son était paniqué, il s'accrochait au mur derrière, au milieu. Et Zoro, en dansant, et c'est très beau dans le film, il y a tous les petits cailloux qu'il y a sur le toit des immeubles. Et les cailloux partaient, je me dis, nom de Dieu, s'il y a des gens qui passent en dessous, qui reçoivent les cailloux, enfin, c'était terrible. Et là, il m'avait dit, Zoro, c'est là que tu vois leur intelligence. Il m'a dit, Jean-Pierre, je t'offre une séquence. Et il m'a offert 7 minutes d'affilée, mais je ne le referai pas, je te préviens. Parce que lui-même, il y avait le risque qu'il se laisse emporter par la danse et qu'il tombe derrière. Enfin, et du coup, à l'image, il y a cette intensité-là.
Oui, ouais, c'est vrai. On peut peut-être faire une petite pause musicale sur le mot intensité. On va écouter Gaël Faye pour son titre « Chaloupé ». Ah. Et on se retrouve après.
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée. Tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biguines au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive. On scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store. Nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécone, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
On est toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, et nous venons d'écouter la chanson de Gaël Faye, Chaloupé.
Oui, je voudrais dire quand même que Gaël, c'est un ami que j'ai rencontré justement, parce qu'il m'a demandé un jour de prendre un extrait d'un de mes films, Du dos au mur, donc sur des grèves ouvrières, pour terminer une chanson, un rap qu'il avait fait. Enfin, c'est plus un slammer d'ailleurs, Gaël. Et c'était un texte, donc je me vois à un bistrot, il me met le casque, il me dit, voilà, cette chanson, si tu m'autorises, j'aimerais mettre des plans du dos au mur quand les ouvriers rentrent dans la... occupe la bourse capitaliste. Ça lui avait vraiment beaucoup plu. Et Gaël, c'était une chanson qui commençait par une citation de Pierre Bourdieu. Donc je me suis dit, ah, ce mec. Et ensuite, bon, on a appris à se connaître et tout ça. Et il devait savoir que les problèmes que j'avais pour trouver le financement du dernier film, parce que là, on se fréquente de temps en temps, on va manger un morceau ensemble. Et je ne l'avais pas prévu du tout. Il m'a cité dans une chanson qui s'appelle « Irruption ». Et il dit, en gros, je ne me rappelle plus le texte exact, mais en gros, il dit, on va occuper le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne dans... voilà. Et en fait, il prenait cette séquence d'occupation de la bourse en exemple. Et moi, je suis très ému de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes du hip-hop qui m'ont renvoyé la balle comme ça. Et je suis allé récemment à un de ses concerts, et là j'étais rouge comme une pivoine. Il dit et dans la salle il y a Jean-Pierre Thorne. et c'est curieux à quel point il veut se situer dans la continuité des luttes ouvrières où son père avait participé et où et j'ai trouvé ça formidable que ce mouvement artistique ait la lucidité de se situer dans la continuité des engagements de notre génération. Moi, je disais toujours à Gaël, maintenant je suis tranquillisé, votre génération continue nos luttes et c'est formidable. Non, mais c'est un mec formidable. Ouais.
Donc on va revenir à la question de la manière de filmer la danse. Vous avez tous les deux des manières très différentes de le faire. Déjà, toi, Françou, tu filmes seul, il me semble, dans ton film.
Oui, pas seulement celui-là. La plupart des films que j'ai fait seul, j'ai filmé seul, puisque je fais tout du début à la fin, sauf les finitions, à savoir le mixage et l'étalonnage. Je fais l'image, le son, le montage. Parfois, je me fais donner un coup de main au montage, parfois également à l'image, quand il faut que je sois dans l'image. Autrefois, je me filmais. Non, je filmais beaucoup sur pied, mais aussi au déclencheur automatique, quand je faisais du Super 8. Mais parfois, quand il faut un panneau, c'est Jacques Kébadian qui me le fait. Et c'est lui qui m'aide parfois au montage. Il m'a aidé d'ailleurs sur ce film-là.
Au montage.
Au montage, c'est-à-dire qu'il venait tous les 15 jours et il me critiquait. Lui, il n'est pas aux manettes, c'est moi, mais il dit des trucs. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, j'en tiens compte. Mais je filme le seul. J'avais un ingénieur du son là, avec les tam-tams. Il est arrivé 3 jours après le début du tournage. Et les deux premiers jours de musique, c'était catastrophique parce que ça saturait tout le temps. Parce que dès qu'il y a un tam-tam, comme je dois être prêt. Parce que moi, j'aime faire des plans rapprochés. Et je fais assez peu de plans d'ensemble, sauf si j'ai un avant-plan ou si je suis de profil. Mais je ne fais pas. Toi, tu as tendance à filmer assez frontalement. Moi, non, pas du tout. Ça arrive, mais... Bon, là, j'avais une liberté totale, je pouvais m'approcher, etc. Bon, puisque j'avais l'autorisation et que les gens avaient de la sympathie pour moi, ou du moins pour mon travail, pour ce que j'étais en train de faire.
J'adore les plans que tu as fait quand on est dans les... backstage, enfin... Et que les filles dansent encore... Avant de rentrer en scène, on sent il y a la tension et tu es à côté, il y a une complicité avec elle et c'est magnifique.
Et ça, c'était les Angolaises. Ouais. Après, il y a les Éthiopiennes qui font le signe de croix.
Ah oui, j'ai rigolé
avant de rentrer en scène.
Oui. C'est les Éthiopiennes, ça. Ouais.
Plusieurs fois.
Oui, j'ai vu.
Et c'est les Angolaises où j'étais copine avec elles parce qu'elles étaient sur le site où je filmais les répétitions.
Ah, d'accord.
Et j'ai passé beaucoup de temps, effectivement, quand il y avait des spectacles, j'ai passé plus de temps dans les coulisses que sur scène, que devant la scène, parce que j'avais pas le droit de monter sur scène quand même. Et je comprends, ça aurait gâché le paysage. Mais j'étais collée au bas de la scène. Et donc, moi je suis miro, je suis complètement myope, donc j'ai tendance à m'approcher le plus possible pour voir, tout simplement. Donc j'ai tendance à faire des gros plans, ou si c'est pas des gros plans, je fais beaucoup d'avant-plans. Et ça, toujours, pas seulement dans ce film-là.
C'est chouette,
hein. Toujours. Bon, par ailleurs, c'était un vrai plaisir de les filmer parce qu'ils étaient tellement beaux.
Ah oui.
On le ressent, hein, à l'image que tu prends du plaisir à les filmer.
Et c'était un vrai bonheur, quoi. C'est-à-dire que le film, il est passé à Marseille il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois ou 3 mois. Et c'était une salle ultra gauchiste. Et on m'a dit, il y a une fille qui a dit, une métisse qui a dit, en tant que personne racisée, je trouve que c'est vraiment une image, des images d'une blanche qui filme des corps noirs, etc. Ben, tout le délire.
Nul.
Et bon, moi j'ai dit, d'abord, certes, je suis née blanche, mais j'ai été adoubée nègre par 2 Guinéens. Quand j'étais en Guinée, qui m'ont dit, toi, t'es un nègre comme nous, donc je me considère pas comme une blanche. Et même si j'étais blanche, je vois pas pourquoi, ce qui m'empêcherait de filmer des corps noirs, d'autant de la même façon que des noirs peuvent filmer des corps blancs ou de n'importe quelle couleur. Et moi, je filme ces corps parce qu'ils sont beaux. Ils pourraient être blancs, bon, ils danseraient pas de la même façon, mais ils pourraient être aussi beaux en étant blancs et faire d'autres, mais aussi belles danses. Enfin, voilà, bon. J'ai trouvé ça débile, mais enfin c'est le discours ambiant, c'est-à-dire tout le monde répète les mêmes conneries,
On peut peut-être réécouter un extrait de ton film, d'ailleurs. Moi, je trouve
je
le fait
un truc
que...
sur, ouais, vas-y. Sur le film de Jean-Pierre, parce que j'ai dit que je parlais des danseurs et du plaisir que j'avais à les filmer. On voit aussi que tu as énormément de plaisir, parce que c'est vrai qu'ils ont des corps stupéfiants, ils font des prouesses avec leur corps, ils ont une souplesse, une agilité, une légèreté surtout, une légèreté incroyable. Et il y a le truc qui m'a le plus plu, c'est outre la danse, bon, dans la danse, ce que j'ai préféré, c'est les dernières séquences. Bon, la légèreté, elle existe aussi dans tout au long du film, mais j'ai préféré les 3 ou 4 dernières séquences. L'élastique, les claquettes, tu m'as dit son nom, j'ai déjà oublié, et le dernier, Farid.
Oui.
Qui est assez stupéfiant un discours extrêmement solide aussi. Mais moi, un des trucs qui m'a le plus bouleversé, c'est quand Gabin dit... Alors, il dit pas, comme Spinoza, c'est la puissance d'être, mais il dit la même chose. Il dit, c'est on veut être, c'est la volonté d'être. Et ça, moi, comme j'adore Spinoza, j'ai trouvé tout de suite ma puissance d'être, qui est ma référence philosophique. Et j'essaye que ce soit ma référence de vie aussi.
Bien sûr.
Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. De la même façon, il y a l'autre, je crois qu'il est musicien, celui-là plutôt, qui dit, je sais plus son nom, qui dit on a la confiance et on a une armure.
C'est une armure contre les balles du système.
Une armure, oui. Et bon, c'est ça va dans le même sens, quoi, ces deux réflexions. Et ça, et sur la volonté, le vouloir être, ça m'a complètement fait plaisir, quoi. Ouais. J'avais envie de rire, quoi. Ouais. De plaisir.
Je suis d'accord.
On peut peut-être se remettre, dans
Non, je voulais juste peut-être continuer. Non, non, mais vas-y. Je suis... moi, j'ai fait ce film aussi parce que toujours, on stigmatise cette jeunesse des banlieues en disant c'est des caïras, ils brûlent les supermarchés, je sais pas quoi. Enfin, les images de stigmatisantes pullulent à la télé partout. Et je trouve que face à la lourdeur du système, le fait qu'il s'envole, c'est pour ça le titre « Faire kiffer les anges », parce qu'à un danseur, je demande « Pourquoi tu danses ?» et il me dit « C'est pour faire kiffer les anges ». Et je trouve ça super, parce que ça veut dire vraiment que pour moi, c'est vraiment des anges face à un système qui les plombe au sol. Et il y a une joie de vivre.
Et un envol,
ouais, complètement. Ouais.
Et cette force créatrice qu'ils ont, quelquefois, elle a été aussi copiée. Elle a quelquefois été copiée, enviée. Je veux dire, c'est ça leur force aussi. C'est-à-dire qu'ils ont inventé leur propre art. Et quelquefois, il y a eu des formes de récupération aussi.
Complètement. Dans la danse contemporaine, notamment.
C'est ça, dans la danse contemporaine, par exemple. On peut peut-être écouter un extrait du film de Françou pour se remettre dans l'ambiance... ce festival panafricain d'Alger de 2009 qu'elle a filmé. On écoute un extrait.
Laisse-moi dire ce qui lumière de mon cœur. Laisse-moi dire le fruit de ma pensée. Algérie, tu me souris. Algérie, viens me bénir. Puisque moi je te souris. Algérie, viens dans mes bras. Un beau festival de gens sympas. Des nanas, rêve magnifique. Oh Algérie, viens me sourire. Algérie, je te dirai. Algérie, oh Algérie. Je suis sur ta plage, mon cœur court comme la glace. Devant cette étendue d'eau, j'ai couvert mon dos. Et mon regard s'étend sur la plage de Géraldin. Qu'attends-tu, Sarah, pour venir dans mes bras? Sarah, moi j'ai froid. Je veux te voir en mes bras. Devant cette caméra. Jolie, jolie,
jolie, jolie.
Jolie,
jolie, jolie, la jolie, 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 jolie,
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. On est toujours avec Françou, Jean-Pierre, Anne, Doriane et Niki et Mélanie à la technique. On vient d'écouter encore un deuxième extrait du film de Françou. Alors cet extrait, on le trouve particulièrement émouvant si on le met en perspective un peu peut-être aussi de l'histoire de l'Algérie, de ce pays, enfin... Moi, personnellement, il m'a beaucoup ému. Donc, c'est un homme qui chante sur la plage. Il est accompagné par un ami à la guitare. Et en fait, il improvise une chanson qu'on peut qualifier une chanson d'amour. On voit les corps alanguis sur la plage qui se baignent. Les femmes se baignent en robe ou en maillot de bain. Il règne vraiment une ambiance très agréable, joyeuse. C'est l'été, il fait chaud. Et je trouve que c'est une séquence pleine d'espoir. Quand on imagine que ce pays a quand même vécu le terrorisme 7 ans auparavant, cette scène donne de l'espoir en fait et voilà. Je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, se rapprocher des corps parce que finalement ces corps que tu filmes de très près, ces corps là. Ils incarnent aussi l'espoir, en fait. Ils incarnent la joie. Souvent, les gros plans, les visages sont très souriants. Tout à l'heure, on disait que tu filmes beaucoup les coulisses, les moments de détente, comme celui qu'on vient d'écouter. Et la danse, la chanson, l'expression artistique ou spontanée, elle fait partie, en fait, de ces personnes que tu filmes. C'est-à-dire que tu vas filmer un festival, mais j'ai l'impression que ce que me dit aussi ton film, c'est que ça fait partie de leur existence, c'est leur identité, c'est eux, en fait. Il n'y a pas de frontière entre la scène et la vie quotidienne.
Ouais, c'est assez vrai. C'est-à-dire que, ils sont, en tout cas pour les danseurs, parce qu'à la plage, il y avait... différents types de participants du festival. Donc il y avait les filles qui se baignent en robe, par exemple, c'était des artisanes
algériennes.
Non, pas du tout, non. Je sais pas de quel pays elles étaient, mais elles n'étaient pas algériennes. Il y avait des Algériens, il y a un groupe algérien qui chante vers la fin du film, un groupe de Sétif qui chante une chanson traditionnelle. Et puis il y avait des Marocains, etc. J'en ai filmé, mais je n'ai pas gardé. Bon, évidemment, c'est comme ça quand on fait un film. On ne garde pas tout, heureusement. Ça ferait des kilomètres. Et de fait, c'est les danseurs, en tout cas, c'est les danseurs et danseuses, c'est avec eux que je suis resté le plus longtemps et que j'ai le plus travaillé. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux, heureux de danser, heureux de s'amuser entre les danses, heureux d'être là à Alger et dans le festival. Ils étaient heureux, ils respiraient le bonheur, quoi. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'était facile de filmer pour moi, parce qu'ils étaient heureux, ils étaient contents que je les filme en train de travailler, ou même que je les filme en train de... Il y a eu d'autres moments. Il y a un moment lors de la piscine, je crois, c'est dans un autre film que je l'ai monté, je sais plus. Oui, ils jouent au bord de la piscine et ils sautent tous dans l'eau. C'est dans Bienvenue à Madagascar que je l'ai mis. Mais le fait qu'ils sourient, c'est d'une part qu'ils sont heureux et c'est aussi que c'est des professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont un sourire de professionnel qui. Et puis c'est un truc que j'ai remarqué, parce que je filmais dans les rues à Alger avant ou après, parce qu'au début du film, ça commence par des peintres qui repeignent Alger pour l'occasion.
Ça, j'ai trouvé ça un peu ironique, enfin, te connaissant.
C'est du badigeonnage.
Oui.
C'est du badigeonnage pour faire propre avant, sur le trajet de la parade.
Voilà.
Mais j'ai remarqué que les gens, quand ils travaillent, ils sont heureux d'être filmés, quoi. Et quand ils produisent quelque chose, ils sont heureux d'être filmés. Et ces ouvriers qui repeignaient, ils étaient heureux d'être filmés aussi, quoi. Tandis que quand ils foutent rien, à Alger, c'est impossible de filmer un type qui tient le mur. Ils voudraient pas, quoi. Sauf si on est copain avec lui. Mais moi, j'étais pas copine avec des gars qui tenaient le mur. Donc, mais les gens qui travaillent, ils sont heureux. Du coup, ils sourient Voilà quoi.
Jean-Pierre, on va réécouter un peu un extrait de ton film pour se remettre dans l'ambiance. Et c'est un extrait où tu vas avec Karima Khelifi dans le Globo, qui est un endroit mythique de la scène hip-hop underground. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi Karima, une des seules femmes dans ce mouvement hip-hop qui est quand même très masculin. Donc voilà, je vous laisse écouter l'extrait.
Dans la coiffure jusqu'à mes 20 ans, je dis vraiment tenir, parce qu'une fois que j'ai connu ici, c'était vraiment dur, je voulais m'échapper, quoi, en quelque sorte. Et 18 ans, ça représente l'âge de la liberté aussi. Quoi. Et quand mon père est décédé, je venais quand même tout le temps ici. Les gens, ils comprenaient pas, mais pour moi, c'était un endroit où j'oubliais tout, c'était une vie à part. Quoi. C'était l'underground, la grotte. C'était un monde nouveau, en quelque sorte, aussi. Et il me ressemblait, quoi. Je me reconnaissais dedans. Et donc même quand je travaillais dans la coiffure, on avait un miroir tout au fond. Moi, j'étais souvent dans le fond. Tout ce qui était bac à shampoing, parce que j'étais assistante ou technicienne. Donc je faisais couleur, mèche, permanente, etc. Donc là-bas, le fond, c'était mon coin. Et il y avait des grands miroirs. Et dès qu'il n'y avait plus de clientes, je m'entraînais au proc devant. Mais j'avais vraiment aucune notion. C'est-à-dire que je me suis quand même débrouillée. On m'avait donné des bases, mais vu que j'avais aucun rythme, etc., j'ai mis du temps. On sait très bien que le break, c'est dur, quoi, c'est pas facile du tout. Donc il y avait le petit sourire en se disant, elle va pas tenir longtemps. On se disait, au bout d'un mois, elle va craquer, elle va arrêter, parce que c'est pas fait pour une fille. Enfin, il n'y avait pas de fille, donc c'était pas fait pour une fille.
Pourquoi c'est pas fait pour une fille?
Parce qu'on voyait que des mecs. C'était surtout ça, quoi. Et on pensait que c'était soi-disant physique, etc. Mais il y a une chose qui m'a réveillée aussi, par contre, je te parlais du cirque de Pékin. J'ai vu une fille faire coupole au ralenti avec un vase sur le pied. Et pourtant, elle était toute fine, etc. Et même dans ce festival-là, il y avait aussi des toutes petites de 9 ans qui faisaient plein de trucs d'acrobatie, des mouvements de bébête, etc. Je disais, mince, mais on parle de force, mais une petite fille de 9 ans, là, on peut pas me dire qu'elle a de la force. C'est histoire de technique et d'appui, etc. Quoi. Et donc, c'est là aussi que je me suis dit, bon, pour moi, quand même, la coupole, ça restait quand même inaccessible. Tout ce qui était grande face, ça restait quand même inaccessible. Donc, je me suis dit, les passe-passe. J'ai quand même bien galéré, mais je me suis dit, c'est un moyen de mettre mon identité dedans.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire avec Jean-Pierre Thorne et François Prenant. La radio, donc sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et vous écoutez l'émission, on a déjà traité le sujet de l'association Ad Hoc. Donc Jean-Pierre, là on vient d'entendre Karima Khelifi qui nous parle de danse. Et est-ce que tu peux nous parler?
Oui, je voulais réagir parce que tout à l'heure tu as dit... c'est un milieu majoritairement masculin. Je m'inscris en faux par rapport à cette vision. C'était peut-être le cas au tout début, mais depuis, les filles, elles sont maintenant 50-50. Hein. Et il y a des très grandes chorégraphes. Je pense à Bintou Dembélé, qui a été la chorégraphe du spectacle qui est passé à l'Opéra, Les Indes Galantes. Je pense à Nash, que j'ai filmé, qui elle est plus du côté crump, mais il y a énormément de filles dans le hip-hop. Hein. Et donc, c'était peut-être une vision des débuts, mais je pense qu'elles ont vraiment bagarré pour affirmer leur place. Et il y a toute une série de chorégraphes. Il y a un film qui a été fait par une amie, d'ailleurs, Nadja Arek, qui a filmé les femmes dans le hip-hop. Et il y a quatre danseuses absolument formidables, dont Karima, mais d'autres. Voilà, donc...
Oui, aujourd'hui, elles ont fait leur place.
Elles amènent quelque chose de différent. Et en même temps... elles se font respecter des mecs parce qu'elles elles font des phases très étonnantes et voilà.
Oui. Et donc ce que dit Karima, c'est qu'au début, c'est vraiment le début où il n'y avait pas beaucoup de femmes et qu'en fait elles ont fait leur place.
Oui, oui.
Bon, bah, c'est une jolie façon de finir l'émission. Je te laisse la parole, Anne, pour l'agenda du mois qui arrive.
Alors, ce mois de mars 2023, je rappelle qu'on est dans l'année du documentaire, ce qui s'observe effectivement par l'effervescence de ce mode de cinéma auquel nous, on participe beaucoup, évidemment, qu'on défend. Donc, en mars, on va avoir la 45e édition du Festival Cinéma du Réel, du 24 mars au 2 avril, au Centre Pompidou. Chaque année depuis sa création, il y a 30 ans, Ad Hoc y organise un débat public sur des questions de cinéma documentaire. Rendez-vous le samedi 25 mars, de 11h30 à 13h30, dans la petite salle du Centre Pompidou, pour ce débat d'Ad Hoc intitulé « La part du son ». Écouter, voir. Et je signale que, François, tu vas participer à ce débat d'Ad Hoc.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Et tu y es invité, mais avec ton dernier film, Escale de Guinée.
Non.
Non ?
C'est pas celui-là.
Ah oui, d'accord.
C'est le 1, 2, 3, 3e, je crois.
D'accord. Bon, en tout cas... Une occasion de t'écouter dans le cadre d'une autre discussion autour du son dans le cinéma. Et je crois que tu as un film qui passe au réel, par contre.
Il y en a 10.
Ah, voilà. Tu as une grande rétrospective.
C'est l'intégralité de ce que j'ai fait depuis mon premier film, 1975. Pas 1800. Et il y en a 10 de différentes longueurs. Bon, j'ai pas fait que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de montage, donc j'ai pas fait que des films. Donc il y en a que 10 de différentes durées et de différents styles, je sais pas. Mais de différents. Moi, j'aime pas dire documentaire fiction. Il y a des fictions aussi parmi ces films-là, mais ce qu'on appelle des fictions, c'est-à-dire des gens qui ont un texte qui est dans la bouche, quoi.
Je vais embrayer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça me fait vraiment penser à un plaidoyer qui a été lancé par l'ACID, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Et c'est plaidoyer pour la diversité. Et ça va vraiment dans le sens de la diversité de nos manières de faire, la diversité des points de vue de ce cinéma qui peut se développer de documentaire, fiction, un geste cinématographique, mélange. Et, et voilà, c'est, vous pouvez lire ce plaidoyer sur leur site. Ils disent plaidoyer pour la diversité, c'est activement et résolument aller voir ailleurs si nous y sommes. Et puis je vous laisse découvrir la suite, mais c'est un très beau plaidoyer. Pour finir sur notre agenda, je reprends les nouvelles d'Adoc, qui lance cette année une nouvelle collection, les cahiers d'Adoc, dans une démarche d'archivage et de publication de ses échanges sur des questions de cinéma. Le premier cahier d'Adoc reprend le débat mené au réel en 2022, des existences parallèles. Vous pouvez d'ores et déjà l'acheter en ligne sur notre site adoc.net. Vous trouverez aussi le livre « Cinéma documentaire, manière de faire, forme de pensée » qui était épuisé depuis des années et que Adoc a réédité pour ses 30 ans. Transcription de plusieurs débats menés par l'association à ses débuts dans les années 90 autour de questions qui sont toujours d'actualité. Enfin, le prochain samedi d'Adoc, une projection suivie d'un débat au cinéma Le Luminor par mois. Ce sera samedi 11 mars à 11h avec le film « Ailleurs partout » de Isabelle Ingold et Viviane Perel-Multer. Aux images des quatre coins du monde sur un écran d'ordinateur où un seul clic suffit pour traverser les frontières, se superpose le récit d'un autre voyage, celui de Shahin, un jeune Iranien qui a fui seul son pays. Le débat sera animé par Manuelle Frézil, réalisatrice de Le Bon Grain et Livré. Je vous dis ça parce que les trois réalisatrices avaient été nos invitées de l'émission de janvier 2022 à la radio. Et cette émission, c'était Migrer et grandir, que vous pouvez toujours réécouter sur le SoundCloud d'Adoc, comme vous pouvez réécouter toutes nos émissions et celle-ci qui sera en ligne très bientôt, dans les jours qui viennent.
Avant de finir l'émission, on pose toujours la question où est-ce qu'on peut voir vos films. Donc toi, François, on peut les voir bientôt au Festival du Réel. Et toi, Jean-Pierre, où est-ce qu'on peut voir tes différents films ?
Il y a une édition DVD.
Il y a une édition DVD, oui, qui est de deux coffrets que vous pouvez trouver en allant sur le site de JHR Films. Voilà.
On trouve aussi chez Potemkin.
Oui, chez Potemkin à la FNAC, qui sont référencés.
Voilà, dans des librairies. Dans...
Et je signale aussi qu'il y a un débat qui aura lieu le 14 mars à l'ASCAM. De plusieurs, enfin on est quatre, sur le thème le jeu et le nous dans le documentaire. Je, J.E. et nous. Ouais.
Merci.
Merci beaucoup, merci aux invités, c'est un plaisir de vous recevoir. On se retrouve pour une nouvelle émission le dimanche 2 avril. Voilà, avec grand plaisir. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Et merci.
Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's Queen of Soul, Miriam Makeba. Good luck, Miriam, and please do come back to us soon.
Goodbye, mother. Goodbye, father. And to you, my little baby, goodbye. Until we meet again. Farewell, dear friend. Me.